espace d'eux. On peut construire une vie sur le déni de sa naissance en affirmant que la vie ne nous a pas été donnée et que c'est la mort qui nous a été donnée. Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième volet de notre série intitulée « Naître pour la mort, naître à la vie », série que nous passons en compagnie de Denis Vasse, styliste jésuite. Alain Perrottet signe la réalisation et Krin Erard est avec vous jusqu'à 23h.
À vue d'esprit.
Denis Vasse est l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont influencé la théologie, une théologie existentielle qui cherche à repenser la foi à partir du vécu des hommes. Car précisément, Denis Vasse a construit sa pensée à partir des confidences de son cabinet de psychanalyste. Et il en est arrivé à exprimer avec des nouveaux mots des affirmations théologiques aussi fondamentales que par exemple le péché originel. Il y a quelque chose de commun entre le récit de la Genèse et ces hommes et ces femmes qui, survivants, affirment que la vie ne leur a pas été donnée, qu'on les a trompés et que c'est la mort qu'on leur a donné. Un refus de la vie qui se traduit en refus de l'autre, de la réalité, et qui conduit ces personnes à vivre dans leur bulle. Bulle dans laquelle nous vivons tous par moments dans notre vie, soyons honnêtes. Alors, la faute aux autres, aux parents, à Dieu, ou à un non à la vie qui se dit en nous, inconsciemment.
Quand on dit que la vie ne nous a pas été donnée, vous voyez bien qu'au lieu de découvrir ou de laisser se découvrir ce qui dit non à la vie en nous, on va accuser l'autre de ne pas nous donner la vie.
C'est la faute à l'autre.
Nous allons accuser l'autre. Autrement dit, c'est la dimension paranoïaque de l'humanité qui accuse l'autre de ce qu'il agit.
Mais en même temps, c'est peut-être la faute aussi à l'autre. Si on a une mère, on évoquait hier des mères qui ont elles-mêmes vécu des choses assez douloureuses, qui n'ont pas su accueillir un enfant, si on est dans des circonstances de guerre ou pénibles, tout dépend dans le milieu dans lequel on vit, dans lequel on arrive, ça va être moins facile.
Ce que vous dites est juste. Ce que je crois, c'est qu'une psychanalyse même d'adulte, qui croirait qu'elle est arrivée à son terme parce qu'elle est entièrement explicable par ce que les autres lui ont fait, serait une tromperie, serait un mensonge majeur.
Est-ce que ça veut dire, Denis Vasse, que la liberté est à l'œuvre d'une certaine manière?
Bien sûr. La liberté, c'est pas le choix secondaire, comme aller voter, etc. Bien sûr, mais la liberté fondamentale, ce n'est pas ça. C'est un consentement que nous ignorons, à vie qui nous inscrit dans l'existence et dans l'être, dans la vie, justement dans la rencontre avec quelqu'un d'autre. Le déni de la vie va aussi une manière de ne rencontrer personne.
Et ce déni de la vie, il peut exister chez les adultes qui sont par ailleurs totalement inconscients de ça, enfin c'est pas du tout. Et pourtant il y a ce nœud fondamental qui est là.
Oui,
quoi.
Oui, bien sûr. Et même il y a le nœud le pire. Vous pouvez construire une vie sur le déni de votre naissance. Ce sont ces gens-là qui vivent soit dans la tête, ils peuvent être brillants intellectuels, soit dans l'imaginaire. Il est dans sa bulle, comme on dit.
Et ça a quelles conséquences, la vie concrète?
Eh bien, ça a qu'ils ne sont plus incarnés. Ça a qu'ils ne vivent plus dans la chair. Et il n'y a pour l'homme de possibilité que de vivre dans la chair. Et dès qu'il déserte sa chair, eh bien, il a un corps imaginaire, un corps en image. Et donc, il va construire, on peut faire des profils de carrière et des beautés réalisées comme ça. Le monde moderne est très fort pour ça. C'est-à-dire, vous allez passer votre vie à habiter une image. Mais vous voyez bien que c'est la catastrophe. C'est-à-dire, habiter une image, c'est se mettre dans un endroit où on ne rencontre personne. C'est comme le lieu de l'objectivation de notre volonté propre. Alors que parler, c'est constamment poser quelqu'un dans l'existence et recevoir de lui.
Et donc celui qui est dans son imaginaire, dans son cerveau, dans sa tête, d'une certaine manière, il n'y a pas la vie en lui, il n'est pas un vivant parmi des vivants.
Il n'est pas vivant, et c'est ce qu'ils vous disent d'ailleurs. Un jour, il y a un garçon, 18 ans, ouais, qui m'a dit « Moi, je suis comme une éponge sur le bord d'une baignoire. » Ma mère ne m'a donné que la vie, ça voulait dire, ne m'a pas donné de nom. Et il disait, le nom, c'est le mec qui disait, le nom, c'est comme un chapeau sur la tête. Donc vous voyez bien que quelqu'un qui se bâtit comme Greta Garbo, au lieu de se bâtir dans l'altérité, dans un rapport vivant qui exige un tiers d'ailleurs, eh bien, au lieu de se bâtir dans un rapport de vie et de chair, et que vous vous bâtissez sur l'image ou sur les canons de la beauté, le jour où vous ne pouvez plus vous regarder dans une glace, c'est catastrophique, vous n'avez plus qu'à vous enfermer. Vous disparaissez avec votre image. C'est toute l'histoire de Dorian Gray, etc.
On n'est plus qu'une façade, avec derrière un gouffre.
C'est-à-dire rien. Et alors, forcément, vous voyez bien comment cette découverte-là, c'est quoi ? C'est ce qui se passe déjà dans l'enfant qui pleure, comme c'est pas possible, parce que... Il n'a pas de critères parce qu'il est en colère, parce qu'il est hors de lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans les bras de sa mère. Qu'est-ce qui le fait aller dans les bras de sa mère ? C'est la vie. Il va dans les bras de sa mère, et si sa mère n'est pas trop malade, elle va dire oh, « mon chéri, qu'est-ce que tu as ?» Et puis elle va lui dire « ben, tartempion, tu vois ?» C'est-à-dire là où lui va exprimer que tout est absent de lui dans un espèce de désespoir, c'est littéralement sa mère qui le maintient dans la vie. Mais supposez que cette femme souffre elle-même d'avoir été ainsi rejetée. Voyez bien, sans qu'elle le sache, elle va pas pouvoir lui parler. Moi, je connais des femmes qui se sont débrouillées découvrant ça en elles de manière épouvantable, débrouillées pour aller confier à un organisme ou à quelqu'un leurs enfants, sachant qu'elles ne pouvaient pas avoir de rapport constitutif avec elles pour pouvoir se suicider.
Quand on entend ça, Denis Vasse, est-ce que justement il y a une telle peur de la parole qui pourrait toucher de l'autre, où il pourrait y avoir un lieu de rencontre finalement, que du coup, toute rencontre est totalement menaçante ?
Voilà. Toute rencontre est totalement menaçante.
La rencontre, c'est la mort.
La rencontre, c'est la mort. C'est la mort dans la mesure où je n'en veux pas, puisqu'elle se présente comme ce qui tue. C'est une rencontre duelle, c'est une rencontre, c'est comme si c'était l'autre qui était la vie tout entière et que pour être vivant moi-même, je devrais être comme lui. Mais c'est la mort. C'est bien ça qui existe dans le rapport entre mère et enfant et où, pour vivre, l'enfant doit devenir la vie de la mère. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais Dieu en face de moi.
Il doit fusionner, il ne doit plus exister. Il n'a plus le choix, quoi.
Il doit fusionner ou être complètement séparé, ou être abandonné. Tous les êtres qui ont eu le risque dans leur existence de fusionner comme un objet avec père ou mère, justement, vont se retrouver dans l'abandon. Mais voyez qu'on ne peut pas plus vivre de fusionner que d'être abandonné. Dans l'abandon, souvent, on élabore le roman de devenir indépendant ou autonome, n'est-ce pas ? Mais ça n'existe pas. On ne peut devenir autonome dans une rencontre où ni l'un ni l'autre des termes n'absorbe ou n'évacue l'autre, c'est-à-dire une rencontre qui a lieu finalement par la médiation d'un tiers.
En ce sens-là, on pourrait dire, d'une certaine manière, on est tous à la fois habités par la peur qu'on nous aime, au point de nous détruire, par peur également de donner. En même temps, on a envie de donner, mais on a peur de se perdre. On est tout le temps un peu pris dans cette ambiguïté-là.
On a peur de ce qu'on appelle l'amour. Pour autant qu'amour n'a pas d'autre possibilité de vous dévorer. Aimer, c'est aimer comme on mange. Et d'ailleurs, c'est courant, hein. On en mangerait. Moi, j'ai entendu, quand j'étais gosse, je me souviens d'une tante qui soignait une de mes cousines, d'ailleurs, et qui, au cours de la toilette, lui disait, ah, que c'est beau, on mangerait. J'étais effrayé.
Qu'on n'a pas, parce qu'il faut bien quelque part faire cette expérience, qu'il existe un amour qui nous laisse être nous-mêmes, qui au contraire est content qu'on soit différent, qu'on soit autre. Si on n'a pas cette expérience-là, comment est-ce qu'on peut accéder ?
On n'y accède pas. C'est qu'on a fait l'expérience d'un amour mensonger, c'est-à-dire d'un amour qui dévore et qui laisse tomber, d'une vie qui se donne et qui se reprend. Vous voyez bien qu'on a là le fantasme fondamental qui fait qu'on refuse Dieu.
D'ailleurs, vous citez dans votre livre La vision de la joie, vous faites allusion à Genèse 3, au serpent. Vous dites, le pervers ou celui qui n'a pas fait cette expérience d'un amour qui peut nous laisser être nous-mêmes finalement, il ne croit pas ou de vie en vérité. Mais c'est un mensonge et on le comprend. Et de fait, il expérimente ça. Et vous dites, il est comme le serpent de la Genèse qui dit, vous êtes vivant si vous ne mourrez pas, Dieu est un jaloux, en fait, il ne veut pas vous donner la vie.
Et c'est exactement ça. C'est lui qui ment, c'est pas moi. Ben, c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure, sous la même forme. Vous disiez, mais enfin, si une femme a eu tellement de malheur, etc., qu'elle peut pas parler, alors voilà, tout est de la cause à cause de lui. Mais justement, cela correspond au fantasme fondamental qui nous habite originellement, pas originairement, mais originellement. C'est-à-dire ce fantasme que la vie est un objet qu'on nous a donné et qu'on peut nous reprendre.
Et en ce sens-là, il aurait presque mieux fallu qu'on ne nous la donne pas.
Exactement.
Denivas, comment est-ce qu'on peut, parce que ça paraît, vous nous faites un tableau qui paraît sans espoir, est-ce qu'on peut désamorcer ça ?
C'est sans espoir.
On désamorce jamais ça.
Ce qui peut désamorcer cela, c'est s'il est vrai que le désir de l'homme est le désir de l'autre, c'est un autre dont nous dépendons dans la mesure où ce qui fait vivre, nous fait vivre de désir, c'est bien l'altérité, ce que nous cherchons, et non pas ce que nous projetons. C'est ce que nous découvrons dans la mesure où nous cherchons, mais c'est pas forcément ce que nous cherchons. Donc, le désamorcement de là apparaît toujours comme justement le don d'une vie qui n'est pas ça. Vous comprenez, qui n'est pas ça, et en tous les cas, qui ne se construit pas ce roman-là, qui dit que la vie l'a donnée, c'est la vie. Et à quoi on reconnaît la vie donnée? C'est pas parce qu'on la garde, c'est parce que elle se donne en nous de la même façon.
Je la partage, je l'ai reçue gratuitement, je ne l'ai pas volée, on va pas me la...
C'est les phobiques qui croient qu'ils ont volé la vie. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Parce que si je parle, on va croire que je l'ai volée. Si je parle de la vie, on va croire... Et vous voyez bien que c'est là où ils sont persuadés par eux-mêmes, c'est-à-dire dans le dédoublement d'eux-mêmes, justement, qu'ils l'ont volée. Qu'ils ne devraient pas l'avoir.
C'est complètement fou, hein?
C'est la folie. Mais vous voyez bien que c'est très important de percevoir cette radicalité-là pour découvrir à quel point ce qui les amorce, cette chose-là, c'est le salut.
Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de salut?
Être sauvé de cette perspective-là.
Et ça pourra se faire grâce à la rencontre avec quelqu'un d'autre, une altérité quelconque.
C'est la rencontre avec quelqu'un qui témoigne que la vie qui n'est pas perverse, c'est-à-dire qui se donne sans se reprendre, c'est vrai, c'est la vérité. Que la vie est vraie dans cette mesure-là. Et que si nous faisons l'expérience d'une vie vraie, quelle qu'elle soit, dans sa modalité, c'est cela, justement, le pardon, c'est-à-dire que nous est redonné, justement, une vie que l'on perdue.
Nous retrouvons demain Denis Vasse, psychanalyste jésuite, pour nous arrêter sur un thème qui revient souvent dans ses écrits, dans son discours, lui de la parole, parole avec un grand P. Si vous souhaitez mieux connaître sa pensée, je vous conseille l'ouvrage qui nous a servi de fil rouge. Il s'intitule « La dérision ou la joie ». Il est paru aux éditions du Seuil en 1999. Bonne fin de soirée à vous, je vous retrouve demain à la même heure.